Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission de l'Institut européen des musiques juives, produite et présentée par Hervé Roten sur Judaïk FM.
Sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were mild till I met my honey.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous mensuel de l'Institut européen des musiques juives. Depuis plusieurs années, nous cheminons ensemble sur les voies, je vous laisse le soin de l'écrire, des musiques juives, ces musiques juives d'hier mais aussi d'aujourd'hui. Et notre dernière émission était consacrée principalement aux premiers enregistrements de musique yiddish collectés à l'aube de la Première Guerre mondiale en Russie, Biélorussie, en Ukraine. Et à la fin de cette émission, nous avions évoqué le fait que cette collecte s'est poursuivie après la Seconde Guerre mondiale dans le Nouveau Monde auprès des migrants juifs d'Europe de l'Est. Nous avions notamment salué la mémoire de Ruth Rubin, née en 1906, mort en 2000, qui a consacré une grande partie de sa longue vie à collecter près de 2000 chansons. Et ce soir, nous allons poursuivre sur ce même sujet, puisque nous avons la chance d'avoir avec nous toujours la spécialiste du domaine de la chanson yiddish, qui est actuellement en train de consacrer sa thèse sur le sujet. Il s'agit d'Hélène Orbiezinski, bien connue, puisqu'elle est non seulement artiste, violoniste, chanteuse, je suis sûr que vous allez l'entendre, et en tout cas je vous recommande de l'écouter vivement. Et puis c'est une historienne de la musique, puisque comme je le disais, elle poursuit son travail sur les territoires de la chanson yiddish. Et c'est grâce à elle que nous allons suivre ces chansons à travers notamment donc, les archives yiddish. Éléonore, bonsoir.
Bonsoir.
Éléonore, écoutez, la dernière fois donc, on avait commencé à parler justement de ces archives, de ces premières collectes de chansons yiddish qui se sont déroulées donc, au début du XXe siècle. Peut-être on pourrait rappeler très brièvement à nos auditeurs qui n'ont pas pu assister à cette émission, pourquoi il y a eu ces collectes en fait au début du XXe siècle.
Alors elles ont même commencé à la fin du XIXe, dans un contexte où l'ethnographie connaissait un essor assez général en Europe, puisque les différentes nations essayaient de se constituer une histoire, une langue, un folklore, etc. Et donc, les Juifs en faisaient autant, en même temps que les Polonais, les Français, les Allemands et les Italiens.
C'était l'émergence des nations, en fait, à cette époque-là. On oublie souvent que c'est un phénomène relativement récent, à notre époque où ces nations sont parfois un petit peu menacées dans leur être. Les nations se sont nées très tard, et donc avec l'émergence de ces États-nations, dans la seconde moitié du 19e, et ça s'est poursuivi avec tous les soubresauts que l'on connaît, la révolution russe en 17, enfin tout énormément des guerres qui ont suivi. Beaucoup donc de pays trouvent leurs frontières actuelles, et puis bien sûr il faut définir qu'est-ce qu'on appelle être russe, qu'est-ce qu'on appelle être ukrainien, qu'est-ce qu'on appelle être, enfin voilà, chacun, et la musique fait partie de ces définitions identitaires en quelque sorte, puisque un peuple doit avoir une musique populaire par définition. Donc
il y avait aussi enfin pas que des enjeux nationaux identitaires, il y avait aussi le fait que c'était des musiques qui étaient transmises oralement et que, en fait, on assistait déjà à la fin du 19e siècle au déclin du monde traditionnel du shtetl avec l'urbanisation, l'industrialisation. Donc, en fait, les folkloristes et les gens qui tenaient ces chansons et cette culture pour précieuses, se sont mis en quête de les préserver.
Tout à fait. Et donc, vous mettez en lumière, notamment dans vos travaux de recherche, la façon dont les artistes d'aujourd'hui, en fait, utilisent ces chansons d'hier pour enrichir leur création. Et je vais vous poser une question, alors qui, à mon avis, vous ne pourrez pas y répondre d'un coup, parce que c'est une question énorme, mais ce n'est pas grave, je me lance. Est-ce que cette attitude d'aller puiser en fin de compte, dans le passé, d'aller puiser dans des chansons anciennes, des chansons yiddish notamment, Est-ce que cette attitude pour les artistes d'aujourd'hui est une attitude couramment répandue ou elle ne concerne qu'une par un film d'interprète finalement?
J'ai envie de dire que c'est d'une certaine façon la plus répandue, pas nécessairement d'aller puiser dans les archives, mais d'aller puiser dans des répertoires anciens. Et c'est certainement la plus répandue. Si on regarde tous les albums de chansons yiddish qui reprennent des chansons yiddish, comme celui qu'on a fait avec mon groupe aussi. Enfin, ensuite, il y a des démarches qui, à mon avis, sont un peu plus approfondies aussi, d'aller justement fouiller dans les archives de folklore, qui sont des archives assez particulières où on entend le style d'une façon plus authentique et épurée, quoi. Quand on entend une personne chanter a cappella comme ça, brut de décoffrage, enfin, c'est du matériau brut vraiment dont il faut s'emparer et faire quelque chose d'autre. Donc c'est vrai que, et en général, les gens qui s'intéressent à ces collections de folklore ont une démarche peut-être plus approfondie sur le plan culturel ou même de la langue. Parfois apprennent la langue.
Très bien. Alors justement, ça c'est une vaste question, on va y revenir tout au long de cette émission. Et je vous propose d'écouter dès à présent un enregistrement récent qui a été publié par l'Institut européen des musiques juives, qui s'inscrit totalement dans cette démarche, en fait, d'ancrer le passé de cette démarche à partir d'archives anciennes. Il s'agit du CD Yiddish et Fantasier, qui est l'œuvre d'un trio de musiciens mené par le violoniste et le chanteur Amit Weisberger. On écoute un premier extrait. Nous venons d'entendre le tout début du disque Yiddish et Fantasier, donc par le violoniste Amit Weisberger, qui est accompagné également au cymbalum et au violoncelle par Gaël Brantôme, au cymbalum Mireille Tristianou. Ce qui est particulier dans cet enregistrement, comme on a pu l'entendre, Eleonore, c'est l'utilisation, justement, presque l'incrustation de ces archives dont on parle, puisque ça commence avec un morceau d'archive, je crois. C'est quoi exactement, de quoi s'agit-il?
Oui, le petit extrait qu'on entend au début, c'est un redélé, une petite ronde, chantée par Rosalia Kiselgoff, et qui a été enregistrée à Leningrad en 1920. Et cet enregistrement fait partie de la collection Kissel Goff, qui a ensuite donc qui était une figure très importante du renouveau musical en Russie du début du XXe siècle, qui a notamment participé à l'expédition dite Anski, enfin l'expédition ethnographique organisée par Joël Engel tout début des années 10. Et ensuite, les archives de Kissel Goff ont été cataloguées et classées par Moïse Beregovski, qui est connu comme étant aussi une des grandes figures de l'ethnomusicologie juive.
Est-ce qu'on pourrait rappeler à nos auditeurs, parce que on l'a dit lors de la dernière émission, pardon, mais ça peut sembler loin maintenant, il se passe vraiment des choses vraiment incroyables au début des années, enfin 1900-1910, et notamment donc dans une ville à Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, c'est quand même, c'est pas dans la zone de résidence, c'est une ville qui en principe même est interdite aux juifs. Pourtant, il y a à Saint-Pétersbourg à cette époque-là environ 20 000 juifs, soit 1% de la population de Saint-Pétersbourg, c'est une grande ville, hein, c'est 2 millions d'habitants. Des juifs principalement, alors plutôt aisés, puisque pour y être admis, il faut pouvoir soit faire partie de la guilde des commerçants ou faire partie vraiment de la bourgeoisie juive, comme par exemple, ou de la noblesse, puisque comme le fameux baron Gainsbourg, qui est celui qui est le mécène qui a financé une grande partie de ces expéditions ethnographiques. Mmh. Et ce baron, on dit, alors moi je suis plongé en ce moment dans un livre sur la vie de Marc Chagall qui est absolument passionnant, parce que Marc Chagall, c'est un petit peu l'équivalent en peinture de ce qu'on entend ici en musique. C'est lui aussi, il est en train de peindre un monde qui est en train de disparaître. Il a très bien compris que ce monde du shtetl est en train de s'éteindre, et donc il le peint de tous les pores de sa peau. Il raconte dans ses mémoires justement comment il a rencontré Gainsbourg. Gainsbourg l'a aidé. Et Gainsbourg, c'était un personnage extraordinaire, ce baron de Gainsbourg. Il avait son titre de noblesse, il était né en Ukraine, mais d'une famille d'ascendance allemande. Mais il était reconnu par le tsar lui-même, qui lui accordait audience. Alors quand même, le tsar des Russies accordait audience à un juif, c'était pas chose facile. C'était un collectionneur absolument incroyable. Chez lui, Chagall disait qu'il y avait une bibliothèque qui contenait 52 000 livres. Donc ça, c'était la plus grande bibliothèque privée d'Europe, dont des manuscrits hébraïques incroyables. Et Gainsbourg a ce souci de collecter, de préserver cette culture juive qu'il voyait disparaître. Il était tout à fait conscient, et c'est comme ça qu'il a financé toutes ces expéditions ethnographiques. Alors vous me permettrez, voilà, j'ai cette petite parenthèse, parce que je trouve quand même assez extraordinaire cette prémonition de ce baron de Gainsbourg. Et c'est grâce à lui, en partie, qu'on a ces archives dont les artistes s'inspirent aujourd'hui, si je comprends bien.
Mais oui, oui, merci, c'est très intéressant. Oui, effectivement, la Société des musiques juives traditionnelles a été créée en 1908 à Saint-Pétersbourg. Et la collecte financée par le baron Ginsburg a eu lieu de 1912 à 1914, et elle s'est interrompue à cause de la Première Guerre mondiale. Effectivement, ils enregistraient, enfin c'est assez émouvant d'entendre ces enregistrements, ils enregistraient, comme on l'avait dit la dernière fois, sur des cylindres en cire. Et puis cette collection nous est parvenue c'est toute une histoire aussi. Enfin, on avait raconté ça la semaine dernière, je ne sais pas si on va...
Oui, ça nous est parvenu, on a cru qu'elle était disparue. Puis finalement, on l'a retrouvée dans les archives de la Société des sciences d'Ukraine, donc à Kiev. Et elle est encore, je crois, pas totalement accessible. En tout cas, on ne trouve pas tous les enregistrements. Il y a quelques enregistrements qui ont été publiés sous la forme de CD, effectivement. Mais il y a tellement, il y a des milliers de chansons qui ont été notées. Il y a toutes ces collectes où ils sont partis avec du matériel phonographique pour enregistrer, et donc on en a quelques exemplaires, mais pas tout. Je voudrais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure Sur justement comment là on a vu comment donc Amit Weisberger s'inspire de ses archives. Au passage, c'est assez amusant parce qu'Amit Weisberger est israélien de naissance, mais il vit au fin fond de la Bretagne aujourd'hui. Et j'allais dire la Bretagne, grâce à lui en partie, mais pas uniquement, il y a une tradition très forte de danse et de musique collective là-bas. Mais il y a une fusion qui s'est fait par l'intermédiaire d'Amit Weisberger entre la musique bretonne et la musique juive d'Europe de l'Est, qui est assez intéressant. Il a notamment créé le Begele Orchestra, et donc vous voyez des Bretons qui dansent avec des chapeaux ronds, mais peut-être pas ce qu'on imagine, puisque c'est dessous les chapeaux ronds il y a les paillasses noires qui tombent, et c'est vraiment formidable. Mais est-ce que finalement, et c'est ça ma question, comme il y a eu cette rupture avec la guerre qui a emporté, qui a balayé tant de communautés, est-ce que finalement les musiques traditionnelles se sont toujours finalement transmises par imprégnation, par mimétisme? Les gens baignaient dans un bain musical, ils écoutaient ces chansons, ceux qui avaient quelques dons, qui voilà, savaient jouer un petit peu d'un instrument, rejouaient ou les chantaient, et ça se transmettait ainsi. Pendant la guerre, il y a eu cette rupture. Est-ce que finalement aujourd'hui les artistes ne font pas la même chose, mais comme il n'y a plus le grand père ou les personnes, ils sont plus dans une tradition vivante puisque ça a été détruit, est-ce que c'est pas tout simplement, ils s'inscrivent dans cette tradition mais à travers ces enregistrements, comme s'il y avait une espèce de grand-père virtuel ou grand-mère virtuelle qui venait leur chanter ces chansons?
Oui, il y a clairement quelque chose de ça, et puis pour la génération qui a vraiment fait ce qu'on appelle le revival, le renouveau, la revitalisation. Enfin, il y a toutes sortes de débats autour de ces termes. Donc, dans les années 70, c'était souvent des jeunes Américains qui jouaient de la musique folk américaine et qui, à un moment donné, dans ce mouvement de retour aux racines, se sont demandé finalement... se sont dit, mais nous aussi, en fait, on a une musique, et ils ont commencé à trouver dans les greniers de leurs grands-parents, justement, des vieux enregistrements, etc. Et petit à petit, ils se sont mis à ressortir tout ça, et à l'étudier, et à en comprendre le style, et à disons, refabriquer ce qu'est le klezmer aujourd'hui.
En fait, c'est une espèce de clonage, et clonage très très réussi peut-être. On va en écouter tout de suite un extrait, un exemple. Notre second exemple musical est consacré à Joël Rubin, un grand nom dont vous allez nous parler tout de suite après. Donc il s'agit d'un Foller joué par l'ensemble de Joël Rubin. Thank you. venons d'entendre, donc un volet par l'ensemble Joel Rubin, donc Jewish Music Ensemble, dans un album qui s'intitule Beregovsky Rasené. Quelques mots sur plein de choses en fait, sur Joel Rubin d'abord, sur Beregovsky, peut-être nous rappeler en quelques mots qui il est, et puis qu'est-ce que c'est qu'un Foller ?
Eh bien, alors, Joel Rubin donc, est un clarinettiste et ethnomusicologue qui enseigne aussi à l'université aux États-Unis et ailleurs, qui a justement, lui, fait tout ce travail. Ça a été, je pense, vraiment le premier ou un des tout premiers à fouiller vraiment à fond la collection de Beregovsky et à faire ce travail de, on va dire, revitalisation de cette musique. C'est-à-dire que là, il à la fois dans un travail assez précis sur le style, sur le phrasé, etc., sur la compréhension des rythmiques, sur la enfin sur des tas d'éléments, et à la fois c'est une interprétation presque un peu de musique de chambre en fait, presque de cette musique. C'est en même temps on colle au style, et en même temps je trouve aussi que il l'amène aujourd'hui vraiment dans le son.
Et là, on est dans quelles années à peu près ? Parce que quand vous parlez de revitalisation, ce phénomène s'est passé aux États-Unis. Alors,
ce disque-là, je ne sais plus exactement quelle année il l'a fait. Je pense que c'est un peu plus tardif par rapport à ce que j'appelle le revival. Enfin, disons que
le revival, il date de quand en fait?
En fait, alors ça c'est assez drôle. Moi, j'avais présenté un papier aux États-Unis il y a quelques années, et on m'était tombé dessus à la fin en me disant mais il n'y a pas eu un revival, il y en a eu deux, et puis ça s'appelle pas revival, c'est si, c'est ça. Bon, donc il y a des débats autour de ces questions, mais en gros, dans les années 70, il y a eu un vrai mouvement, donc ce que je décrivais tout à l'heure de retour aux racines, et donc de ces jeunes musiciens juifs qui se sont mis à ressortir des greniers, des tiroirs, cette vieille musique qui en fait leur parlait. Et puis dans les années 90, une fois que, disons, que ce travail aussi stylistique a été un peu fait, et où la transmission a commencé à se faire autour du style qui avait été réappris en fait,
réapproprié
et aussi avec quelques figures qui ont permis une transmission quand même directe et orale, comme Dave Taras qui était aux États-Unis, ou Syd Beckerman, ou il y avait quelques
c'était quelques musiciens qui pratiquaient encore,
musiciens voilà,
qui étaient vivants,
d'Europe de l'Est qui avaient immigré aux États-Unis et qui ont et donc les jeunes musiciens qui ont réussi à mettre la main sur eux en ont profité pour apprendre d'eux. C'était le cas de Zef Feldman et Andy Statman, par exemple, qui ont appris avec...
Donc il y a eu un passage de relais quand même entre l'ancienne génération et la nouvelle génération.
Alors. Oui, aussi. C'est-à-dire qu'il y a différents aspects à ce revival, si on veut. À la fois de recherche et de travail musical sur des sources, soit sonores ou des partitions, et à la fois aussi cette transmission orale. Il y a eu un petit peu aussi.
Alors, Beregovsky maintenant, parce qu'on peut rappeler, vous avez dit que donc, Joel Rubin il s'est appuyé sur les archives de Beregovsky. Beregovsky, en quelques mots, on en parlait longuement la semaine précédente, mais qu'est-ce qu'il avait fait, ce Beregovsky ?
Oui, donc Beregovsky, il a poursuivi en fait, les activités de collectage de la Société de musique juive de Saint-Pétersbourg, en fait, en quelque sorte. Dans les années 20 et dans les années 30. Il a notamment donc catalogué les archives de Kisselgoff, qui est en fait, donc, quand on parle des archives Beregovsky aujourd'hui, ça inclut aussi une partie des archives des collectes précédentes.
Bien entendu.
Qui ont donc été conservées en tant que fonds spéciaux pendant la période soviétique et retrouvées seulement dans les années 80. Donc elles ont été, les cylindres en cire ont été planqués dans un coin d'une bibliothèque pendant des décennies, quoi, jusqu'à ce qu'on remette la main sur ces vieux enregistrements
qui a fait ressurgir. On a l'impression un peu comme d'être dans une pyramide de Toutankhamon, faire revivre une époque. Ça a été un choc pour beaucoup, effectivement. Ouais. Et qu'est-ce qu'un volaire, alors ?
Alors, un volaire.
Un volaire, pardon.
Volaire, c'est un. En fait, c'est justement un morceau qui, lors des mariages, servait à être écouté, enfin, était destiné à être écouté et pas, enfin, par opposition au morceau qui était fait pour la danse ou fait pour des moments spécifiques du rituel. Celui-là, c'était vraiment un morceau d'écoute.
Oui, parce qu'une grande partie, en fait, de ces pièces instrumentales sont souvent liées au mariage, qui est quand même un moment très, très, très fort.
D'ailleurs, Beregovski Hrasene veut dire le mariage de Beregovski, donc l'album de Joël Rubin...
Oui. C'est un clin d'œil à ce moment important dans la vie juive. Alors, on va écouter justement un autre volaire interprété par le groupe Forspiel. Nous venons d'entendre un extrait d'un volaire du groupe Forspiel. Et alors évidemment, nos auditeurs ont dû être surpris par rapport à ce qui précédait. Et pourtant, il s'agit du même air, je crois.
Et oui, d'ailleurs, le groupe Forspiel, sur son album, précise que ce volaire leur a été transmis par Joël Rubin et qu'il provient de la collection Beregovski, qu'il a été enregistré en 1938, etc. Donc, il y a une continuité...
Mais là, ça, voilà, là on est en plein dans le sujet. Là. On voit vraiment comment, à partir d'une même source, à partir d'une même archive, des groupes peuvent en faire des objets musicaux totalement différents.
Oui. Alors, le projet de Forspiel est celui de... Enfin, il est qualifié de yiddish psychédélique. Donc, eux, leur façon de se réapproprier la tradition musicale yiddish... qu'ils font, en fait, d'une façon aussi ancrée dans la tradition avec l'ornementation, le phrasé et les sources du répertoire qu'ils choisissent. Ils la mêlent avec cette inspiration de rock des années fin 60-70, avec des longues impros, avec des rythmes répétitifs, des effets de guitare, des wah-wah, enfin bon.
Mais on est un peu dans la musique électro en même temps ici.
Oui, enfin, oui, bah oui, il se réfère vraiment au psychédélique
C'est un enregistrement qui date de quand, ça?
L'album.
À peu près, hein, dans les années quoi, 2010,
oui, ça, c'est,
2000...
2000...
c'est récent, non?
Ouais.
D'accord, c'est un album récent. Donc, on voit aussi la démarche, parce que Joël Robin, c'est quand même un musicien plus ancien. Et là, on est dans une démarche qui est différente, album plus récent. Donc, finalement, est-ce que, par rapport à cette réappropriation du klezmer, on voit que les artistes s'en servent un peu comme d'un matériel qui est une véritable source d'inspiration, mais qui, en fait, continue à faire évoluer cette musique, comme elle a évolué, d'ailleurs, à l'époque où... je répète souvent que les musiques ne sont jamais statiques, elles évoluent tout le temps, sinon elles sont mortes. On en a peut-être un peu cet exemple. Comment ça s'est fait aux États-Unis ou au Canada, cette évolution? Parce que vous avez parlé, il y a une première période, enfin, les gens n'étaient pas d'accord à savoir comment ça a commencé, qu'il n'y a jamais eu vraiment de revival, etc. Mais apparemment, il y a quand même eu une période de réappropriation par un groupe de jeunes artistes sous l'effet peut-être du courant folk.
On
parle de Rubin, on parle de Sapoznik, on parle d'autres encore. Et puis, par la suite, il y a eu aussi des stages, des class camps, comme on
c'est
les
ça,
appelle.
C'est ça, à partir des années 80, en fait, c'est constitué tout un réseau. Enfin, d'abord, un stage principal qui était class camp, qui était le premier à apparaître. Et de même, sur le modèle des summer camps de musique folk américaine ou de musique des Balkans, il y avait des stages comme ça l'été, où les familles peuvent venir tout entière et passer leur journée à faire des ateliers de musique, différentes choses. Et donc l'idée de class camp était quand même d'offrir une palette assez large sur la culture yiddish. C'est-à-dire c'était... La musique était au cœur, mais l'idée était aussi d'ouvrir sur la langue et d'autres aspects de la culture yiddish.
Ces universités d'été, si on veut dire les choses un peu savamment, qui d'ailleurs existent même à Weimar en Allemagne, enfin se sont répandues un peu partout. Ça a commencé peut-être aux États-Unis, puis après Canada avec le Class Canada, enfin et Londres, et, enfin il se passe plein de choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a duré pendant des années. Ça a commencé dans les années 80, je crois qu'on a eu le un des derniers qui a dû se passer l'année dernière.
En décembre, il y a eu le 30e class camp qui était en fait le dernier class camp. Je ne sais pas très bien sous quelle forme ça va se renouveler, mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a Class Canada à Weimar et en fait, le groupe Forspiel, moi, je les ai rencontrés, Sacha Laurier, Ilya Schneeweis, qui sont les deux fondateurs et meneurs de ce groupe. Il y a quelques années à Weimar, et eux, ils ont commencé là en tant qu'étudiants, élèves, et puis maintenant, ils y enseignent et ils parcourent le monde pour enseigner et transmettre aussi ce répertoire. Le Weimar, c'est un lieu vraiment extraordinaire aussi d'échange. D'ailleurs, ça se tient tous les ans, hein, donc il faut se renseigner pour ceux qui sont intéressés. Et là, je crois que cette année... Le thème change tous les deux ans. Et là, justement, c'est vraiment sur l'aspect très traditionnel de la musique. Donc, pour les gens qui sont intéressés à vraiment creuser le style, là, il y aurait des intervenants extraordinaires.
Très bien. Eh bien, on va écouter un autre groupe. On en avait entendu un extrait lors de la précédente émission. Il s'agissait de Litvakus, un groupe que vous aimez beaucoup, que vous m'avez fait découvrir. Je le trouve extrêmement, vraiment intéressant. Est-ce que le Litvakus, ça évoque peut-être la Lituanie, non, ce terme-là? Est-ce que...
Oui, tout à fait. En fait, ce projet est fondé sur le travail de Zizel Slepovitch, Dimitri Slepovitch, qui est aussi ethnomusicologue et clarinettiste. Alors, c'est le deuxième. Mais c'est assez intéressant de voir que dans ce monde musical, souvent l'érudition est présente aussi. En tout cas, donc, le travail de Zizel est centré sur justement le répertoire des juifs de Lituanie et Biélorussie, enfin ce qu'on appelait l'ITÉ, la Lituanie juive, qui était un territoire assez vaste en fait.
Donc on entend tout de suite Rétalé Suite par le groupe Litvakus. venons d'entendre l'arrêt à la suite de Litvakus. Et donc, de quelle source est parti ce groupe pour arriver à ce résultat sonore, Eleonore ?
Eh bien, dans son livret, Zissel précise que les trois morceaux ont été enregistrés par Sofia Magid à l'été 1931, qui travaillait avec Moïse Berigovski. Et moi, j'ai trouvé une autre source.
Encore plus ancienne.
Encore plus ancienne, de 1913, que Julien Biret, que je remercie, m'a fournie.
Eh bien, on va l'écouter tout de suite, la source originale de ce morceau. Voici donc un enregistrement d'époque, 1913, ceci explique la qualité sonore, et c'est donc le même air que nous avons entendu interprété par Litvakus. Donc toujours dans les comparaisons de ces musiques juives d'hier et d'aujourd'hui, on va revenir sur cette grande folkloriste américaine qui s'appelle Ruth Rubin, et qui a collecté près de 2000 chansons, dont une qui s'appelle Tin Breeder, et dont on va entendre un extrait. Ça veut dire quoi, Tin Breeder? Les dix frères, donc...
Enfin,
on va déjà peut-être l'entendre et vous allez nous en parler rapidement après, puisque l'émission passe très vite et on entendra peut-être sa réactualisation dans une autre version. Voilà, Lady Frère, Tin Breeder, s'il vous plaît.
Oy, schmirl mitn fiedl, berl mitn bas, spiel je mir a liedl auf mitn gas. Oy, 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 spiel je mir a liedl auf mitn gas. Nein, Bride, sind mir gewesen, hab mir gehandelt mit Fracht. Hat sich einer ausgeglitscht, seine Mäge blieb macht. Hoi, Schmerl mit dem Fiedel.
Donc le début de cette chanson, des dix frères, on en est peut-être qu'au deuxième frère, mais comme le temps passe très vite, on est obligé de raccourcir un peu nos extraits. Et donc on va entendre ce que Wolf Krakowski en a fait, une version qui est, je crois, beaucoup plus américaine, mais vous allez nous la commenter tout de suite après, on l'entend tant qu'on a le thème original dans l'oreille.
Brüder sind in mir gewesen, haben mir gehandelt in Wahn. Sind in eins und ins gestorben, sind in mir geblieben nahn. Nahen Brüder sind in mir gewesen, haben mir gehandelt in Pracht. Sind in eins und ins gestorben, sind in mir geblieben acht. Jedel mitten Fiedel, gedall je mitten Bass. Spiel je mir a Lied, läuft. Ay 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 ay, spiel je mir a Lied auf dem Gas. Ach, Brüder sind in mir gewesen, haben mir gehandelt und gerieben. Sind in eins von ins gestorben, sind in mir geblieben sieben. Sieben Brüder sind in mir gewesen, haben mir gehandelt mit Gebäck. Sind in eins von ins gestorben, sind in mir geblieben sechs. Jedel mit dem Fiedel, gedall ihr mit dem Bass. Spiel je mir a Lied, läuft mit dem Gas. Ai, 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 in ai, 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 ai. Spiel je mir a Lied, läuft mit dem Gas. Sechs Brüder sind in mir gewesen, haben mir gehandelt mit Strim. Sind in eins von ins gestorben, sind in mir geblieben. Bin Friede sein in mir gewesen, hab mir gehandelt mit Bier.
Un extrait de la chanson Zehnbrüder, chantée par Wolf Krakowski. Donc quelques mots seulement sur Wolf Krakowski, son parcours, son courant musical.
Oui, alors bah, lui, il est né en 47 dans un camp de personnes déplacées en Autriche. Et ensuite, ses parents ont émigré en Suède pour ensuite aller au Canada, à Toronto, où il a quand même passé pas mal de temps. Et puis ensuite, il est parti sur les routes avec du théâtre de rue, etc. Il a beaucoup joué. Et maintenant, il vit dans le Massachusetts. Et alors, bah, lui, ce qui me touche énormément dans son approche, c'est qu'il a à la fois... Enfin, le yiddish, c'est sa langue maternelle. Il chante cette musique... il la comprend, il la vit, il l'interprète, et à la fois il est américain.
Non, mais ça se ressent, hein, c'est totalement rock, folk.
Et c'est du vrai rock et c'est du vrai blues.
Oui, c'est vrai, tout à fait. Alors, toujours aux États-Unis, un autre groupe, un autre projet, celui de Lauren Sklandberg et Susan McCown. C'est le projet, je crois, Sense and Tzadik. Je vous propose d'en écouter aussi un bref extrait et vous nous direz de quoi il s'agit.
Futter jiddele, futter reus, wohin is er verfolgen zum Haar in Heus, wohin is er verfolgen zum Haar in Heus.
There came a lord all clad in green, lady will you be my queen, lady will you be my queen.
Wie kenn ich dir gern, mein Schwester, vor a Weib, as sie is doch edeler fin dein Leib, as sie is doch edeler fin dein Leib.
Well, you must ask my sister Anne. Don't forget my brother John. Oh, don't forget my brother John.
Wie kennst du Sonnen, als sie edeler von mir? Als sie hat doch geboren, ein Kind von mir. Als sie hat doch geboren, ein Kind von mir.
Soll mir sein Weh und Wind, als ich hab gehabt mit ihm mein Kind. Als ich hab gehabt mit ihm mein Kind.
Donc un extrait de Saints and Tzadik, donc Lauren Sklandberg et Susan McCown. Là, on est dans quel style?
Là, on est vraiment aussi dans une démarche très folk, évidemment. Lauren Sklandberg, donc à la fois... Il est aux archives sonores du YIVO, il dirige les archives sonores du YIVO, donc il connaît extrêmement bien les archives de Ruth Rubin puisqu'elle s'y trouve. Et donc dans ce projet, là on entend à la fois du yiddish et de l'anglais, entend une chanson yiddish qui vient de la collection de Ruth Rubin et une chanson irlandaise en fait qui parle de la même chose, en fait. C'est vrai que dans le folklore, du coup, on trouve assez souvent comme ça des chansons ou des contes ou des histoires qui ont circulé et qui sont les mêmes d'une langue à l'autre, pratiquement. Avec
c'est du yiddish celtique, en quelque sorte. Hein.
Là, on peut dire.
Alors, on va écouter un dernier extrait, puisque notre émission se termine très prochainement. Il s'agit du groupe mythique des Klezmatiques. On va entendre...
Dont Lauren Sklandberg est aussi le chanteur.
Voilà, il est partout, mais des gens de qualité, c'est normal. Il s'agit de Barrikaden, donc du groupe Klezmatique.
Tates mames kindalar boyen barrikaden, tates mames kindalar boyen barrikaden, avdigasen geinarum arbeter atraden, avdigasen geinarum arbeter atraden. Das Lied, was ich vielleicht jetzt da oizen gehen, tates mames kindalar boyen barrikaden, habe ich angeschrieben, dachte ich mir mit der Jahr 15, ich noch mehr mit 20 Jahren zurück. Dann hat es geschrieben, dann war die Arbeiterjugend von Dillne.
Tattes Mammes Kinderlach, boi in Barrikaden. Auf die Gassen gehen herum, Arbeiter und Traden. Tattes Mammes Kinderlach, boi in Barrikaden. Auf die Gassen gehen herum, Arbeiter und Traden. Sister Tate Frifun
von Stuba weg auf der Fabrik. Wetter schön in Stiebelen, ich komm in Heim zurück. Es wissen gut die Kinder, lacht der Tate wird nicht kommen. Sister Tate heint den Gas mit sein Bix vernommen. Sister die Mame Eucha weg in Gas verkäufen, Erdbohr.
Nous venons d'entendre donc Barrikaden, Klezmatik, avec je crois la voix de qui ?
La voix de Shmerke Kaczerginski qu'on entend au début et qui provient aussi des archives de Ruth Rubin. Shmerke Kaczerginski, c'était un poète qui vivait donc en Lituanie et qui a passé, qui était partisan à l'extérieur du ghetto de Vilnius, qui avait réussi à s'enfuir du ghetto de Vilnius, qui avait participé aux Brigades de Papier avec le poète Avrom Soutskever. Enfin, c'était un poète très important. Et c'est lui qui a écrit cette chanson aussi, Barrikaden, qui raconte une famille en fait, dont tout le monde en fait, va contribuer aux barricades en l'occurrence, c'était les ouvriers qui se battaient contre... Enfin, c'était l'époque de révolutionnaire, en fait.
D'accord. Bah, écoutez, Léonore Biansinski, on vous aurait bien écouté des heures, mais malheureusement, notre émission se termine maintenant. C'était une émission tout à fait passionnante. Et c'est très bien, on reste sur notre fin, comme ça, on vous réinvitera. C'est toujours cette question, donc, comment aujourd'hui chanter, transmettre ces musiques juives, ces musiques yiddish, en l'occurrence, au cours de ces deux volets que nous avons fait avec vous. Merci pour ces émissions. On rappelle à nos auditeurs qu'on peut commander votre CD qui s'appelle Soll sein sur le site de spielkess.org.
Et même venir nous écouter.
Vous regardez l'actualité, notamment l'agenda de l'Institut européen des musiques juives. Vous pouvez également commander le CD Yiddish et Fantasy sur notre boutique www.iemj.org. Si vous souhaitez réécouter cette émission en podcast ou d'autres qui vous auraient échappé, retrouvez-nous donc sur le site de l'Institut européen des musiques juives, j'ai donné l'adresse, et bien sûr sur le site de judaïquefm.com dans la rubrique podcast. Au micro Hervé Roten, David et Dylan à la technique, l'Institut européen des musiques juives a été heureux de vous présenter cette émission et vous souhaite une agréable fin de soirée en musique bien sûr.
Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission de l'Institut européen des musiques juives, produite et présentée par Hervé Roten sur Judaïque FM.
The sugar.
I'm the sugar for my baby and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby and my baby's crazy for me. Things were mild till I met my honey. Now I'm wild.